Bonsoir. Un rappel hein, pour ceux à qui ça avait peut-être échappé. La primaire de la gauche, elle aura lieu les 22 et 29 janvier, dans moins de 3 semaines donc. C'est-à-dire, c'est quasiment demain, hein, avec une campagne qui va être courte, des débats rapprochés. Et pour ceux que ça intéresse, il va falloir donc se déterminer sur des programmes. Ceux de Payon, ceux de Valls ont été présentés ce matin quasiment à la même heure. Alors justement, à l'issue du quinquennat, qui ont vu s'affronter au moins deux visions de la gauche, comment attirer à nouveau? Comment séduire? Comment convaincre justement? Quoi de neuf à gauche? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, attention au vide, ou en tout cas au moins au flou hein, de certains projets. On va en parler ce soir avec Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive. Avec nous également Thomas Porcher, professeur d'économie à la Paris School of Business, auteur de « Introduction inquiète à la macro-économie », jeu de mots. Véronique Jérôme, politéoconomiste chez ElectionScope, auteur avec Bruno Jérôme de « La victoire électorale ne se décrète pas ». Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique à BFM Business. Et puis Olivier Roucan, politologue constitutionnaliste. Alors, présentation, je vous le disais ce matin, des projets présidentiels de Manuel Valls, qu'on va entendre dans un instant, et de Vincent Payon, qui plaçait à gauche sa candidature et son projet.
Je suis candidat à l'élection présidentielle pour gagner en mai prochain et pour entraîner la France vers son avenir. Tel est le sens de ma candidature et tel est le sens du projet que je vous propose. Ils s'inscrivent l'une et l'autre dans l'histoire du socialisme que j'assume entièrement et de la gauche qui est ma famille. Et ils veulent prolonger cet élan dans l'avenir. Le progrès démocratique et le progrès social restent des horizons pour notre action.
Voilà, et Payon propose pêle-mêle un bouclier fiscal pour les plus modestes, qui concerne 15 millions de foyers fiscaux, des aides pour les entreprises, des aides à l'export, à la formation. Et puis concernant la loi travail, a priori elle ne sera pas abrogée, mais elle sera fortement amendée, puisqu'il va revenir, il voudrait revenir en tout cas, sur l'inversion de la hiérarchie des normes. À ce propos, lui, Manuel Valls, il ne reviendra pas sur les 35 heures.
Je veux garder, bien sûr, le temps aujourd'hui, le temps de travail, qui est celui des 35 heures, même si la réalité pour les salariés de ce pays, ce sont 39 heures. Je veux valoriser le travail, d'où le fait qu'il faut revenir sur un choix que nous avons fait en 2012, mais je l'explique dans le document concernant la défiscalisation des heures supplémentaires. Je veux valoriser le travail, le mérite, l'engagement.
Voilà, l'ancien Premier ministre candidat. Changement de slogan d'ailleurs hein, pour Manuel Valls, une République forte et une France juste, hein, la force et la défense, avec un objectif de 2% du PIB dans la défense d'ici 2025, comme Payon. 1000 postes de force de l'ordre par an, comme Payon, justement. 10 000 nouvelles places de prison, comme Payon. Et puis la justice pour Valls, c'est le financement d'un revenu décent porté à 800 euros par mois pour les plus modestes. Jean-Daniel Lévy, la question quand même qu'on peut se poser, c'est comment construire comme ça, dans l'urgence, je disais, une campagne extrêmement courte, hein, scrutin 22 et 29 janvier. Un programme présidentiel, même si certains prétendent s'être lancés il y a longtemps, comme Montebourg.
Oui, ou même si les Français ne regardent pas tant que cela le programme en fond en comble sur leur motivation de vote. Hein. Et puis on sait bien d'ailleurs
50 pages pour Valls, 60 pages pour Payon.
Oui, et puis ils vont pas forcément comparer.
Je n'avais pas beaucoup réussi à Bruno Le Maire.
Oui, ils vont pas comparer, mesure par mesure. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, parce qu'on a, si ce n'est à gauche, déjà une forme de comparaison avec la droite et la primaire de la droite, c'est quand on a interrogé les électeurs qui ont voté notamment en faveur de François Fillon, c'est pas les 500 000 fonctionnaires par rapport aux 300 000 fonctionnaires qui étaient proposés par Alain Juppé qui a emporté la décision. C'était déjà la thématique générale de dire il faut faire en sorte qu'il puisse y avoir moins de fonctionnaires dans la cité française, avec l'idée il faut revaloriser le travail, reprendre en compte la dimension qui est la dimension de responsabilisation des individus, et puis également de faire en sorte qu'il y ait moins de dépenses publiques. Donc c'est pas forcément chacune des mesures qui vont être auscultées par les Français ou par les électeurs, mais plutôt la tonalité générale.
La dynamique.
Exactement, oui. Et puis, c'est ça. Comment quelle va être la teinte globale qui va être donnée à l'orientation politique. On a bien vu que les débats CSG ou TVA, qui sont des points sur lesquels la droite est sensiblement attentive, n'a pas emporté les modalités de vote lors du dernier scrutin.
Et d'ailleurs, on verra, on en parlera avec vous cinq dans les décodeurs de l'écho, justement. Autant dans la primaire de la droite, il y avait une sorte, allez, de consensus, hein, sur une volonté de réformer, vraiment. Alors, restait à savoir justement quelle était l'ampleur du choc, hein, l'ampleur de la réforme. Là, on va quand même voir, quand même, il y a sept candidats, peut-être sept programmes différents. Oui, Thomas Porcher, économiste, vous aviez contribué à cet appel de 138 économistes. Sortir de l'impasse, Éric Heyer, Mathieu Plane, Dominique Plion, justement, pour rendre espoir aux classes populaires. Comment inventer, comment écrire des projets dans cette campagne express blitzkrieg, pour reprendre l'expression de Manuel Valls, hein?
Moi, je suis assez impressionné par quelque part une forme de cynisme, parce que Manuel Valls était quand même aux manettes il y a encore quelques temps.
Oui.
Et ce qu'il a dit dans son programme, on l'a jamais entendu, alors qu'il était Premier ministre, deuxième homme de l'État, on l'a jamais entendu, par exemple, dire qu'il fallait faire une grande conférence sur l'Europe pour refonder le projet européen. Ça aurait été intéressant qu'il dise ça au moment.
Pour dire non à la Turquie, pour empêcher l'élargissement futur.
Renégocier les traités de la Commission. Il a jamais dit ça. Hollande l'avait promis. Il s'est jamais opposé. On l'a jamais trop entendu parler là-dessus.
On voit bien que ce sont des choses qu'on ne peut que mettre dans les programmes.
Oui.
Parce qu'on voit bien que quand on est aux affaires, on va pas aller comme ça voir nos partenaires européens pour leur dire on va renégocier.
Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'avec les primaires, finalement, on a envie de satisfaire une partie de son électorat, et puis après ils recentreront ailleurs pour élargir. Et donc il y a une forme de cynisme. Je trouvais ça très bon, moi, la primaire. Je trouve ça très bien que les gens puissent débattre de plusieurs sujets. Mais après, on se rend compte qu'il y a une forme de cynisme comme ça. Et puis quand on voit après ce qu'a dit Manuel Valls, alors on a le droit de changer en 5 ans, mais ce qu'il a dit en 2012, dans la primaire de 2012, où là, il voulait arrêter les 35 heures. Il disait que la France devait rentrer dans la mondialisation. Or là, il dit que attention, il faut protéger la France de la mondialisation un peu plus que ce qu'il avait dit il y a 4 ans. Donc où est la linéarité, en réalité, dans la pensée, finalement, politique de ces hommes-là? C'est la question que je me pose.
Ah ouais, justement, Olivier Roucan, Véronique Jérôme, comment est-ce qu'on innove, comment est-ce qu'on invente, justement, dans cette campagne assez calme, quand même, à la limite de l'indifférence, c'était à la une du Monde hier, le mot indifférent. Véronique Jérôme, Olivier Roucan, allez-y, Véronique.
Je voudrais réagir sur deux choses. Premièrement, concernant l'Europe, je crois qu'il est de toute façon assez naturel d'observer que ça ne fait pas partie des priorités que le regard de les électeurs. C'est-à-dire quand on regarde les enquêtes et qu'on regarde les motifs, les enjeux de la présidentielle, l'Europe est vraiment à la traîne des enjeux. Les premiers enjeux, c'est généralement et en moyenne et sur toute la cinquième, c'est l'économie et la sécurité. La sécurité qui redevient un second enjeu aujourd'hui, on le sait très bien pourquoi, à cause des attentats. Mais l'Europe, quand on parle d'Europe aux électeurs, ça ne leur parle pas dans le contexte de l'élection présidentielle.
C'est dommage, Véronique, parce que Vincent Payon en fait le cœur de son
mais père. Oui. Manuel Valls aussi également. Mais a priori, ça ne devrait pas être porteur si on en croit les enquêtes d'opinion.
On a parlé de l'élargissement. Je donne quelques-unes des mesures, puis vous reprenez juste après. Donc, en effet, donc faire une pause dans l'élargissement. Installer un salaire minimum dans chaque pays européen correspondant à peu près à 60% du salaire médian. Ça, c'est Valls qu'il propose. Vincent Payon également veut un New Deal européen impulsé par la relance du moteur franco-allemand. La création d'un budget de la zone euro pour soutenir l'activité et l'emploi. On voit, il parle beaucoup d'Europe, ils parlent aussi beaucoup de sécurité l'un et l'autre. Ils disent vaguement la même chose. Hein.
Oui, de toute façon, et c'est un peu le problème, parce qu'ils ont tous les deux cet objectif d'essayer de faire la synthèse. Payon l'a dit, il a envie de faire la synthèse, et Manuel Valls s'est contraint à faire une synthèse. Le seul problème ici, c'est là aussi, sur les aspects techniques des programmes, ce que l'on voit généralement, c'est que ce que les électeurs écoutent, attendent, c'est des objectifs. Qu'on leur parle en termes d'objectifs, en termes de chômage, en termes d'amélioration du pouvoir d'achat. Les instruments, c'est pas tellement du sort des électeurs, comme vous le disiez tout à l'heure. Finalement, l'électeur, le détail du programme, ça ne lui parle pas véritablement. Il n'a pas le temps d'aller voir dans le détail. Ce qui lui importe, c'est qu'on lui annonce des intentions de réforme, qu'on lui annonce des objectifs. Alors là, malheureusement, les exemples sont pas bons.
Quel homme politique va oser redonner des objectifs comme François Hollande avait dit, on va inverser la courbe du chômage?
Voilà, mais lui, il l'a fait trop tôt.
Ça l'a pénalisé.
Il l'a fait trop tôt, il l'a fait mal à propos, il l'a fait régulièrement, il a donné trop d'espoir qu'il n'a pas su tenir. En même temps, ce que je voulais dire ici, c'est qu'il y a une difficulté, simplement très brièvement, c'est qu'on a cinq anciens ministres, finalement, cinq anciens qui ont participé à l'exécutif et qui sont assez, je crois, gênés aux entournures dans une situation où ils ont à la fois une partie de l'héritage du bilan qu'ils veulent assumer ou pas, c'est pas le problème, mais ils seront redevables.
Ceux qui assument le bilan, c'est clairement c'est Payon et Valls. Oui. Ceux qui le combattent, c'est Hamon et Montebourg.
Dans un cas comme dans l'autre, ils sont assez gênés parce qu'ils ne pourront pas tenir un double discours qui est d'aller soutenir le bilan et d'aller contre ce bilan. Et
Olivier Roucan, comment est-ce qu'on innove? Comment est-ce qu'on invente, justement? Qu'est-ce qu'on dit? Et à qui on le dit?
L'innovation n'est pas...
accès à gauche, normalement.
N'est pas fondatrice des démarches politiques. La politique innove rarement. Et d'ailleurs, on surjoue absolument l'ego dans ces campagnes. La primaire ajoute une couche, à la fois de saturation par l'exagération, j'allais dire, avec des propositions qui doivent être retenues, peu, mais marquantes. Donc c'est... On sature la dynamique du premier tour. On en rajoute une couche et donc ça fait ce que vous disiez tout à l'heure. Ensuite, il y a un écart lorsqu'on arrive au pouvoir et déjà au second tour. Et donc, ça crée un clash et on a chaque président qui est de plus en plus tôt impopulaire et fortement parce qu'il se contredit très vite. Sur l'Union européenne, ça a été le cas de François Hollande qui voulait déjà relancer une dynamique européenne et qui s'est heurté évidemment... Angela Merkel, et il semblerait que les candidats socialistes soient de ce point de vue, puisqu'ils s'avèrent européistes, et c'est une forme de courage à l'heure actuelle, mais ils sont ensuite gênés s'ils arrivent au pouvoir, parce que ils font ensuite entraîner à avoir une véritable dynamique, avec notamment les pays du Sud peut-être, mais qu'ils n'arrivent pas à enclencher pour l'instant. Donc, ça c'est le fond, et donc l'innovation, je ne sais pas, Vincent Payon parle de transition écologique, par exemple.
Pas l'innovation, vraiment... pardon, l'innovation dans le discours, hein, pas uniquement
oui,
dans le...
Oui, dans, le dans les propositions. Dans le discours. Alors ensuite, on parle beaucoup de communication politique, mais il y a également maintenant une saturation de la communication politique et de la volonté de faire mouche par de la formule ou des propositions choc. Donc c'est vraiment une période assez difficilement lisible, décodable, aussi bien du point de vue des leaders que du point de vue des téléspectateurs et des électeurs.
Juste avant qu'on trouve Emmanuel Lechy, Jean-Daniel Lévy, ça va passionner cette campagne-là, cette campagne de la primaire de la gauche?
Ça dépendra, je pense, déjà du premier débat. Parce qu'en fait, on est dans un moment où aujourd'hui les électeurs ont à peine connaissance du fait que d'ici la fin du mois, ils vont être appelés potentiellement à pouvoir voter. Il n'y a pas cette forme de dramaturgie qui existait au sein de la primaire de la droite et du centre avec le retour de Nicolas Sarkozy, à un moment Bruno Le Maire qui a été présenté comme étant une personnalité qui pouvait monter, une interrogation autour d'Alain Juppé, des anciens premiers ministres, etc.
Donc là, chacun qui était les vacheries de Copé aussi, enfin voilà. Non mais c'est vrai, il y avait vraiment une intensité
là,
qui montait.
Et en même temps, on a eu quand même des Français qui se sont intéressés, et même dans l'entre-deux-tours, alors que l'immense majorité des Français pensaient que François Fillon allait gagner, quand même eu plusieurs millions de téléspectateurs qui ont regardé. Donc là, aujourd'hui, on est face à des Français qui n'ont pas forcément connaissance des principaux enjeux, qui n'ont pas connaissance des dates et qui n'ont même pas connaissance complètement des protagonistes.
Alors justement, vous avez raison.
Nombre de Français qui nous disent qu'ils pensent qu'Emmanuel Macron, comme M. Mélenchon, vont faire partie de la primaire. Ils vont avoir une drôle de surprise.
Alors, on va rappeler les 7 candidats retenus par le comité des sages à l'intérieur de cette primaire. Il y a Jean-Luc Benhamias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Payon, François de Rugy, Manuel Valls et Sylvia Pinel. Emmanuel Lechypre.
Il y a beaucoup de différences entre les deux primaires. Hein. On a l'impression qu'on a vraiment une primaire Canada Dry. D'abord, quand vous regardez le casting, par exemple, vous êtes quand même sur un casting de deuxième division par rapport au casting de la droite. Regardez les 7 candidats de droite, vous avez des poids lourds, des personnalités. Là, vous en avez cité. Là, si vous présentez les photos aux Français des 7 candidats de gauche, je peux vous assurer que si vous en avez 3 ou 4 qui sont reconnus, c'est un maximum. Ensuite, pourquoi se bat-on? C'est ça aussi. La droite se battait pour la conquête du pouvoir, la conquête de l'Élysée. Là, la gauche se bat. Pourquoi? Pour peut-être subir la défaite la moins déshonorante possible. Et puis, encore une fois, les programmes.
Alors justement, c'est peut-être ça. Pardon, mais
je voulais juste terminer sur un point parce que qui est le côté changer d'avis sur des sujets ou pas. Moi, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect vraiment où c'est les propositions relèvent vraiment du flanc et du mensonge parce qu'on voit bien que on fera pas. Est-ce que vous croyez vraiment que il y aura une convergence européenne vers le modèle français avec des salaires minimums, etc. Franchement, c'est totalement illusoire. Après, qu'il y ait des changements d'opinion, moi ça ne me choque pas parce que il faut bien voir que la situation
aussi
qu'on vit,
vite à chaque fois,
mais pas aussi vite, c'est que la situation qu'on vit aujourd'hui, on paye aujourd'hui 20 ans de vision totalement benoîte et naïve de la mondialisation. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Et c'est souvent la gauche qui a d'ailleurs porté cette vision de la mondialisation heureuse. Si vous prenez les grands mouvements de déréglementation et d'ouverture des échanges dans le monde qui datent de la fin des années 80 et des années 90, dans presque tous les grands pays, c'est la gauche qui est au pouvoir. Aux États-Unis, c'est Bill Clinton. En Europe, c'est Tony Blair. C'est Lionel Jospin quand la Chine entre dans l'OMC avec la bénédiction de tout le monde. Et on s'aperçoit que ça a provoqué des ravages. C'est ça qu'on paye aujourd'hui. Donc, que Manuel Valls réalise aujourd'hui que finalement, il y a peut-être besoin d'aller orchestrer une mondialisation un peu plus juste, entre guillemets, ça, pour le coup, c'est peut-être même plutôt rassurant.
Mais est-ce que c'est l'homme de la situation? Est-ce que c'est le social-démocrate qu'il est, justement, Manuel Valls? Ce que sont des programmes sociaux-démocrates, quand même, qu'ont présenté Peillon et Valls? Oui, oui, non?
Oui, après, ce qui est assez frappant, c'est que quand on a jusqu'à présent demandé aux Français de juger Manuel Valls, il n'a jamais jugé sur l'économie. Jamais. Il n'est pas comptable, soit positivement, soit négativement, de l'évolution économique de la France depuis 2014, de l'inversion de la courbe du chômage, parce que François Hollande est toujours monté en première ligne. Donc il y a des Français qui ont un regard assez détaché à l'égard des candidats sur leur efficacité économique en tant que telle, et même Lionel Jospin en 2002 n'avait pas pu bénéficier de la reprise d'emploi au cours de la période de 1997-2002.
La social-démocratie était populaire à un moment, vous avez cité des hommes comme Tony Blair, on aurait pu citer Schröder aussi, Emmanuel Le Chypre, à une époque où il y a cette crise justement, où il y a moins de fruits de la, comment dire, de la croissance à redistribuer. Est-ce que finalement, c'est pas l'une des raisons de la panne de cette social-démocratie? Thomas Porcher et Véronique Jérôme.
Moi, je pense que oui. Enfin, tout le monde y a cru. À un moment, on a cru qu'il allait avoir qu'une seule voie, hein, finalement, où l'autre politique allait être un mirage, comme disait notre ancien ministre de l'économie. C'est-à-dire que voilà, il y avait finalement le jeu politique qui se rétrécissait de plus en plus entre la gauche et la droite. Il y avait la social-démocratie, puis il y avait les libéraux à droite, et c'était quasiment la même chose. Et là, on a l'effet boomerang des politiques qui ont été menées, comme vous l'avez dit, pendant 20 ans, d'ouverture de l'économie, etc., de la France à deux vitesses ou des pays à deux vitesse avec les mégalopoles et les villes périphériques, pour reprendre l'expression de notre géographe, Monsieur Guilly. Et là, il y a le retour de boomerang. Le retour de boomerang, c'est le Brexit, qui est quand même sur un pays qui était quand même pendant très longtemps montré en exemple, le Royaume-Uni, etc. Et puis Trump, alors là, qui était aussi pareil, montré de le capitalisme Reagan-Thatcher, finalement. Voilà, qui revient en boomerang avec des politiques ultra-protectionnistes, très fortes, avec l'État stratège de retour. Et donc là, je pense que si on tire pas un bilan de cette aventure à un moment, et si justement on prend pas un virage à un moment dans les politiques économiques qui sont menées, eh ben on risque, peut-être moins rapidement, parce qu'on n'a pas mené les mêmes types de politiques d'ouverture et de libéralisation de notre économie, mais à un moment, on va l'avoir, ce boomerang, en plein visage,
donc,
et ce sera, à mon avis...
Cap à gauche, nettement, c'est ce que vous voulez dire, Thomas Porcher?
Réforme...
Pas un entre-deux?
Moi, je dirais qu'il faut remettre sur la table des sujets qu'on n'abordait plus à un certain temps et qu'on a laissé maintenant filer à une partie, à l'extrême droite notamment.
Oui, mais, lesquels notamment?
Par exemple, l'État stratège. De Gaulle, c'était un stratège sur l'État. Les services publics, la dépense publique, le modèle social qu'il faut conserver et pas plutôt effriter comme ça a été le cas même sous François Hollande. La relance économique que Peillon a mis dans son programme, mais qui était devenu un gros mot ces dernières années, c'est des choses, des outils économiques, politique monétaire, politique économique, qu'il faut reprendre en main.
Véronique Jérôme, Élections Scop. Hein.
Moi, j'ai l'impression que cette primaire, elle va surtout servir à départager ceux qui sont finalement les tenants de deux gauches irréconciliables. Les candidats ne se battent pas pour être candidats à la présidentielle, ils se battent pour savoir qui va refonder, reconstruire la gauche entre cette gauche sociale libérale qui date finalement des années 83-84, quand Delors a conseillé François Mitterrand au détriment de Mauroy, et qu'on a vu de la rigueur. La social-démocratie et ces aspects, on les a déjà vus du temps de François Mitterrand. Donc il y a cette tendance, et puis il y a l'autre tendance, la gauche de la gauche, et celui qui sortira vainqueur aura finalement une capacité à refonder la gauche. On a l'impression qu'ils se battent plus pour ça que pour véritablement une élection qui, a priori, et peut-être, alors je ne sais pas si vous me permettez d'en dire deux mots, mais pourrait se faire avec deux possibilités. Soit on a ce que certains annoncent en disant un 2002 bis avec finalement François Fillon, Marine Le Pen. Soit on a, si l'économie redevient, se réoriente dans une bonne posture, si le chômage continue à son inversion, si l'économie repart, ça va retirer des éléments au programme de Marine Le Pen. Donc ça signifie que peut-être Marine Le Pen ne fera pas ce qu'on lui promet ou ce qui est attendu. Peut-être candidate qu'elle pourrait faire simplement 19%. Si elle est à 19%, on aurait un match François Fillon et Emmanuel Macron, par exemple. Et là, on aurait quelque chose d'assez inattendu.
En attendant, Olivier Roucan, comment ils se distinguent Valls et Payon? On a l'impression quand même qu'il y a quand même beaucoup de points communs. Ils se distinguent d'une certaine façon ou pas?
Disons qu'il y a un fond commun, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on surjoue les égos, parce qu'il y a, vous disiez tout à l'heure, comment on bâtit un programme en quelques semaines, est-ce que tout ceci est artificiel? Non, la politique c'est quelque chose de collectif. Il y a des équipes qui travaillent, qui testent des propositions en permanence dans les partis politiques. Il y a une, encore, même si c'était un moment de désordre, il y a une dynamique structurée de la politique.
On aimerait, par les partis. On aimerait que ce soit vrai quand même.
Et d'ailleurs...
Oui, c'est pas si sûr que ça que ce soit vrai.
Il y a quand même...
Les cellules qui réfléchissent aujourd'hui, qui bâtissent des programmes dans les partis, moi je sais
elles
plus.
Sont pas forcément
je
dans
sais
les partis.
Ah, c'est ça qui est intéressant.
Mais, ah bah oui, mais ça c'est
il y a eu cette espèce
d'externalisation absolument. En partie de la réflexion politique. Mais on sait très bien les connexions et ça fonctionne en réseau comme des tas d'autres dynamiques d'ailleurs dans la société qui fonctionnent en réseau. La politique n'est pas épargnée par ceci. Et donc il y a cette dynamique collective et c'est la question aussi donc de l'après, c'est-à-dire on postule que déjà le second tour est quasiment configuré. Il faut se méfier quand même des configurations à l'avance. Donc on dit le candidat de la gauche sera forcément éliminé, attention quand même. Et puis il y a pour l'après la question des gauches irréconciliables. Et le test pour le PS ça va être ça. Ça va être est-ce que ce parti est encore suffisamment solide, organisé pour gérer ce heurt de la primaire. Il y a un second tour quand même. Et je verrai aussi pour prendre un peu le contre-pied de ce qui a été dit. Bon, le casting de ces figures sont connues quand même. Elles commencent à être installées. Et puis attention aux figures qui
sont... Par rapport à Sarkozy,
Jean-Luc Benhamia, c'est Sylvia Pinel qui vont débattre.
Par rapport à Sarkozy, Juppé, Fillon...
Et Poisson était connu.
Non, c'est le seul. Et NKM, elle était connue.
Le maire est un niveau de...
Il y a deux anciens premiers ministres, un président de la République.
Peu importe, dans tous les cas...
Oui, alors, simplement, c'est vrai, ce qu'on disait, cette primaire de la droite, on disait qu'il y avait quand même un socle commun. Là, c'est vrai, c'est gauche irréconciliable dont parlait tout
mais
de suite.
Mais pourquoi vous voulez les réconcilier? Moi, c'est ça que je... Enfin, je veux dire, c'est l'histoire de la gauche depuis toujours.
C'est pas nouveau dans l'histoire de la Ve République, dans la présidentielle.
Vous avez eu Jaurès, vous avez eu Jules Guedes, vous avez eu Léon Blum, et puis vous avez eu Guy Mollet, vous avez eu Mitterrand et vous avez eu Rocard. C'est deux gauches qui ne se sont jamais réconciliées.
Elles ont gouverné ensemble.
Et qui ont... Dans des parenthèses très précises.
Des accords de gouvernement.
Qui tenaient à la personnalité, effectivement, des leaders qui ont réussi, effectivement, à deux ou trois moments dans l'histoire du XXe siècle, à créer cette espèce de dynamique.
Donc Jean-Daniel Lévy, quand Benoît Hamon prend la semaine à 32h, ce que nous rappelait hier Mathieu Jolivet, quand Manuel Valls défend une loi travail qui laisse la possibilité à chaque entreprise de s'adapter en fonction des besoins, finalement, ils ont des visions extrêmement différentes de l'économie, de l'entreprise, mais... Finalement, qu'ils soient irréconciliables ou pas, c'est pareil.
C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des programmes politiques qui peuvent être différents, ils peuvent avoir des pratiques politiques qui peuvent être différentes, et au final, des électorats qui peuvent quand même se retrouver après l'élection. Ce qui est assez frappant, c'est qu'on peut voir même au cours de la présidentielle de 2012 que l'immense majorité des électeurs de Jean-Luc Mélenchon a voté en faveur de François Hollande, quand bien même son programme était assez éloigné de celui qui était proposé à l'époque par Jean-Luc Mélenchon. S'il doit quand même y avoir une rupture, elle existe au cours de ce quinquennat. Et pour la première fois, on a vu, si ce n'est des gauches irréconciliables politiquement, des gauches qui avaient du mal à se retrouver électoralement. C'est-à-dire avec des électeurs qui avaient voté en faveur de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, au premier tour, qui avaient voté pour François Hollande au deuxième tour, et qui là disent « soit on n'y va pas, soit on ne va pas voter pour le candidat socialiste, quelles que soient les configurations électorales. » Donc avec le sentiment, qui n'est pas forcément le sentiment d'une politique qui n'a pas été une politique suffisamment à gauche ou pas suffisamment à gauche, mais une politique qui a été dans une forme de trahison par rapport aux idéaux de la gauche, pas uniquement en termes d'efficacité politique, mais également en termes de valeur. Et ce rapport, c'est qu'il y a eu la thématique non seulement de la déchéance de la nationalité, la thématique de la loi travail, où il n'a jamais été question de l'efficacité de la loi en tant que telle, mais beaucoup plus de savoir est-ce que c'était une loi plutôt en faveur du patronat ou une loi en faveur du salariat, et qui a amené aujourd'hui cet électorat de Jean-Luc Mélenchon à dire « quoi qu'il se passe, au deuxième tour, face à la droite ou même face à l'extrême droite, on n'est pas prêt à voter pour un candidat qui est issu du Parti Socialiste. »
Bon, on va se retrouver dans un instant, on verra quand même c'est quoi être de gauche en 2017, c'est quoi dire, et le dire à qui, justement. On entendra Arnaud Montebourg. À tout de suite, restez avec nous avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business.
L'écho, c'est clair sur BFM Business.
Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, quoi de neuf à gauche, hein, justement, les programmes des différents candidats qui commencent à être publiés. Ce matin, c'était le cas de Manuel Valls, de Vincent Peillon, scrutin les 22 et 29 janvier. Ça va aller très très vite, cette campagne, justement, il va falloir se déterminer. Est-ce qu'on va se déterminer aussi en fonction des sondages? Tiens, on est avec Jean-Daniel Lévy, notamment, avec nous, directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive, parce que dans l'actu du jour, j'ai l'impression que c'est inédit, c'est une première, c'est le quotidien Le Parisien qui décide de faire une pause dans la commande de sondage durant la campagne présidentielle. La raison, se concentrer sur le journalisme de terrain. Je les cite, et éviter ce côté course de petits chevaux où on se focalise sur qui prend la première position afin de se concentrer, ce qu'ils veulent, sur le fond, sur les programmes. Et ils expliquent bien, c'est pas une question d'argent. Alors oui, ça coûte cher, hein, évidemment, de commander les sondages, hein, et puis d'en fabriquer aussi, hein, puisque vous êtes à la tête d'Aris Interactive. Ils disent, déployer sur le terrain, ça coûte aussi cher. Faire de l'information, ça coûte cher. C'est une marque de défiance, vous le prenez comme une marque de défiance après, finalement, les quelques erreurs, enfin en tout cas, on n'avait pas vu le Brexit, on n'avait pas vu l'élection de Donald Trump.
On va pas refaire toutes les
mêmes choses. Oui, mais c'est pas les mêmes
méthodes. Non, mais on voit bien que l'argument qui est utilisé par Le Parisien, c'est pas l'erreur des sondages. C'est-à-dire, à un moment, on s'est peut-être détourné de l'essentiel. C'est-à-dire qu'on a plutôt commenté les avancées ou les reculs des uns et des autres plutôt que d'aller dans le fond et des enjeux de ce qu'était la cité française et en même temps de ce qui pouvait être les structurants des comportements électoraux à proprement parler. Si je veux être positif, j'ai tendance à considérer qu'ils se sont dit peut-être qu'on ne savait pas bien utiliser les sondages ou pas bien lire les sondages comme il fallait le faire ou les utiliser comme il le fallait.
C'est donc, vrai que si marque de défiance ou pas alors
probablement de manière indéniable. Mmh. C'est absolument certain qu'aujourd'hui, on s'interroge et aujourd'hui, comme on assigne au sondage un rôle qui est un rôle de prévision de l'avenir, forcément, si on leur assigne uniquement cette mission-là, ouais, on se trompe. Si on considère qu'ils ont vocation à pouvoir montrer des tendances d'opinion, et là aussi bien sur le Brexit que sur Trump, voire que sur ce qui s'est passé avec Fillon, la montée de Fillon, on peut penser qu'on avait tous les signes, que ce soit à travers les sondages en tant que tels, mais également à travers la manière dont les sondeurs, ou à Aris Interactive, on a pu écrire qu'il y avait des dynamiques qui existaient, sans pour autant avoir la prétention de prédire l'avenir. Heureusement, les citoyens votent, et là vous avez utilisé un bon terme, c'est-à-dire qu'ils se servent des sondages, les citoyens, pour adapter leur comportement électoral, surtout quand ils ne sont pas complètement attachés, soit à une formation politique, soit à un responsable politique en tant que tel.
On pourrait vivre une campagne présidentielle sans sondage? Enfin, moi j'ai jamais vécu
ça. Non mais c'est absurde. Enfin, je veux dire,
Emmanuel
le problème c'est qu'il y a une mauvaise utilisation des sondages qui est faite par des gens qui ne savent même pas comment c'est fait et qui ne comprennent rien à la technique des sondages. La réalité c'est qu'aujourd'hui, le sondage, c'est devenu à l'analyse politique ce que le fast-food est à la gastronomie. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une béquille commode pour des analystes politiques incultes et qui ne savent pas faire autre chose que commenter trois chiffres. Voilà, c'est ça la réalité, et que c'est pratique de se baser sur des sondages pour extrapoler des choses. C'est beaucoup plus compliqué que d'avoir une connaissance profonde, effectivement, de l'histoire, des courants politiques, de la géographie, des votes, etc. Alors c'est très bien d'aller sur le terrain pour raconter des histoires, mais les deux sont totalement complémentaires. C'est ça que je ne vois pas. Si c'est juste pour nous sortir une Madame Michu qui va nous raconter l'histoire de son beau-frère avec sa R12 jaune pour l'ériger en modèle, etc., c'est de l'obscurantisme, là, pour le coup.
Ouais, Véronique Jérôme.
Je voulais ajouter qu'il n'y a pas que les sondages, il y a aussi des modèles politico-économiques qu'on réalise, qui eux se font sur des résultats de vote passé. Et quand on fait la synthèse de tout, quand on fait la synthèse de tous les sondages, quand on fait la synthèse de toutes les méthodes scientifiques et non scientifiques, nos modèles économétriques et d'autres méthodes de prévision, on s'aperçoit finalement qu'on peut avoir une convergence et on voit des tendances. Et un des autres avantages, c'est la précocité, le modèle. Je parle de ma paroisse, est capable de donner très tôt une tendance. Et on ne prétend pas donner un résultat. On essaie simplement de donner une tendance, de donner un signal pour celui qui va décider. En même temps, sur les sondages, comme le dit très justement Emmanuel, il y a l'aspect concours de beauté. Lorsque les électeurs potentiels entendent parler d'un résultat, ils se sentent obligés d'être dans la tendance, sous peine de passer pour, finalement, entre guillemets, un bolos. Enfin, je ne vois pas d'autres arguments.
Qui ne pas toujours, pas dans nous la dit tendance. Jean-Daniel Lévy.
Donc on a envie d'être du côté du perdant. Il y a ce biais, il y a cet exactement effet de halo qui peut faire qu'on a envie d'être du côté du perdant, qu'on révèle une information qui est biaisée, parce qu'ensuite, dans le secret des urnes, on peut très bien faire différemment. Alors, il n'y a pas que ce biais, bien évidemment. Ouais. On est d'accord.
Thomas Porcher, l'économiste.
Il y a même des biais sur les hommes politiques eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils adaptent vachement leur programme en fonction de ce que disent les sondages. Donc, il faut des déplacements à droite ou à gauche en fonction de celui qui est mis comme le vainqueur. Et ça, c'est quand même assez dangereux. Et ça interroge encore une fois sur le rôle.
C'est une vieille affaire.
Olivier Roucan. Ça interroge quand même sur le rôle du politique.
La fabrication de la communication
politique. Oui, mais la politique, c'est des convictions. C'est pas que de la communication.
Ce qu'il faudrait peut-être changer, ce sont les pratiques professionnelles à la fois de ces communicants, auprès des hommes, des stratèges, auprès des hommes politiques, et avec ces éléments de langage dont tout le monde a assez finalement envie. Et deuxième point, le Parisien pouvait avoir une autre stratégie. C'était de recruter un expert des sondages qui sache les décrypter et en faire la pédagogie. Et là, il y a aussi quelque chose à faire du côté des médias, c'est-à-dire que la façon dont les sondages sont rendus façon course de chevaux...
pour reprendre l'expression de la direction du Parisien.
On peut essayer de changer ça. Donc il y a une évolution des pratiques, c'est comme la politique.
Finalement. Bon, au final, c'est un trou dans la caisse ou pas pour les instituts de sondage, Harris Interactive ou les autres, Jean-Daniel Lévy?
En général, chez nous, les sondages publiés, ça représente 0,1% de notre chiffre d'affaires. Hein. Donc voilà, donc c'est plutôt...
C'est
extrêmement faible. Donc c'est juste...
Et vous en servez un peu comme une vitrine, quoi, quelque part.
Ça sert comme étant une vitrine, c'est un engagement sur notre sérieux, sur notre fiabilité, et sur la manière dont on peut être amené à travailler. C'est pas ça qui va tout de suite entraîner un déficit d'activité en tant que tel.
Bon, allez, on va revenir sur ce qui nous anime hein, aujourd'hui. Donc, quoi de neuf à gauche? Oui, justement, quel discours porteur pour rassurer, hein, pour séduire à nouveau dans le camp de la gauche à l'issue de ce quinquennat avec l'émergence de gauche irréconciliable. Alors oui, doivent-elles rester ou pas irréconciliables? On verra. Arnaud Montebourg aussi, bah oui, fait partie des sept candidats. Il n'y a pas que Peillon, que Valls qui présentaient ce matin leur programme. L'ancien ministre de l'économie qui, lui, veut diminuer la CSG pour les salaires jusqu'à, allez, 1500 euros net à peu près, pour leur redonner du pouvoir d'achat. Le gain serait de 102 euros par mois pour une personne qui est au SMIC, 50 euros pour une personne qui gagne 1500 euros. Voilà ce qu'il disait sur RTL ce matin.
Je propose que cette mesure de baisse d'impôts, on a baissé les impôts à hauteur de 50 milliards sur les entreprises sans aucune contrepartie. Là, je propose à hauteur de 50 milliards. Là, je propose 6 milliards.
Et les 6 milliards, vous les prenez où, les 6 milliards? C'est par les hausses d'impôts pour ceux qui payent
Non, je les prends sur le CICE. Vous savez que j'ai défendu le CICE pour les PME, mais j'ai contesté. Je trouve que l'avoir donné à la grande distribution, aux banques, aux assurances...
Toutes les grandes entreprises...
Non, pas les grandes entreprises. Pas les grandes entreprises industrielles qui en ont besoin parce qu'elles sont dans la compétition internationale. Mais excusez-moi, les banques, les assurances. Les banques ont réalisé 25 milliards de profits.
Voilà, Arnaud Montebourg. C'est un discours de gauche, hein, Olivier Roucan? C'est de nature à fédérer le peuple de gauche?
C'est un discours traditionnel qui correspond bien, j'allais dire, à la stratégie qu'utilise Montebourg depuis très longtemps, du reste. Donc, il communique conformément au créneau qu'il occupe. Pour autant, ensuite, il y a la réalisation. Est-ce que tout est possible? Opposer les banques à l'industrie, ça rappelle de vieux discours socialistes, mais qui ont leur raison d'être dans notre histoire et qui fonctionnent. Donc, il ne faut pas non plus d'un revers de main ou d'un trait de plume gommer tout ceci. Simplement, il faut l'adapter aux enjeux actuels.
Attention, peut-être
actuels.
Aux clichés, peut-être, aussi, non?
Oui, mais les clichés, on en a besoin aussi. Il y a beaucoup d'imaginaire en politique. Mais simplement, il faut l'adapter à des problèmes réels. C'est-à-dire, je regardais également les programmes de Valls et de Peillon. Ils parlent pas mal de deux choses. Du pouvoir d'achat, d'une part, et du travail. Et sur le travail, il y a des évolutions dans ces programmes sur la façon dont la gauche appréhende ceci, et notamment une ouverture vers le travail donc non salarié. Il y a un niveau discours chez Valls, notamment, qui
revenu sert par
la culotte Macron, mais ne le fait pas que pour ça, sur les artisans, sur les auto-entrepreneurs, pour leur octroyer la protection sociale, la protection universelle. Tout ceci est en train de bouger. Et donc, il y aura peut-être là-dessus des débats intéressants. Il ne faut pas non plus dire que ces primaires vont être totalement inintéressantes. Il y aura des débats quand même.
Non, j'ai absolument pas dit que c'était inintéressant. Simplement, on notait le caractère un peu précipité nécessairement où, voilà, pendant moins de 3 semaines, maintenant, il va falloir présenter un programme aux Français. Thomas Porcher, économiste, qui avait publié l'appel des 138 économistes d'en sortir de l'impasse pour justement redonner de l'espoir aux classes les plus défavorisées.
Exactement. Je voulais rebondir sur ce qui a été dit avant et ce que vous avez dit. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces discours fonctionnent bien, en fait. C'est que chaque fois qu'un président de gauche s'est fait élire, il s'est fait élire sur un discours très à gauche. Mitterrand, quand il a pris le Parti Socialiste, vous lisez le discours, il est sur Internet, c'est hallucinant. Il s'est fait élire en 81 sur un discours très à gauche. Puis en 83, il a changé d'avis. Voilà, la rigueur. François Hollande, c'était quand même bien plus à gauche son élection que ce qu'il a appliqué quand il était au
pouvoir. La finance, voilà.
Donc c'est ça qui est assez hallucinant, c'est que les électeurs, finalement, quand ils élisent un président de gauche, ils veulent quand même un discours qui est plutôt assez à gauche, plus que dans les faits. Et c'est ça qui passe. Et après, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'une fois qu'ils sont aux manettes, ils pourraient l'appliquer. Et après, il y a le renoncement. C'est ça qui est assez intéressant. Il y a quand même dans les élections, il y a, c'est vrai, une gauche irréconciliable, mais dans les faits, il n'y a qu'une seule gauche qui applique toujours la même politique.
Vous voyez Jacques Chirac en 95 qui se fait élire sur la fracture sociale. Oui. Même problème. Et on peut, donc ça, la gauche n'a pas le monopole.
Et Olivier Roucan, vous avez vu où il était, François Fillon, ce matin? Il est dans un centre Emmaüs. Oui, voilà. Ouais. Il est dans un centre Emmaüs du 19e arrondissement de Paris. Oui, bah justement, est-ce qu'il faut dire grossir le trait systématiquement? Quand Manuel Valls, ce qu'il répète depuis qu'il est en campagne, donc depuis un mois, je veux que les classes populaires, les travailleurs retrouvent leur dignité, leur fierté. Il se présente en défenseur des humiliés de la vie. La semaine dernière, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de cette histoire de cette jeune caissière d'Auchan qui a fait une fausse couche au moment où elle travaillait. Valls s'est emparé aussi de l'affaire sur Facebook. Une affaire symbole d'une société déshumanisée où l'humain est devenu une variable d'ajustement. Est-ce qu'il faut grossir le trait comme ça, Emmanuel?
Mais là, ce qui est formidable et ce qui est une opportunité exceptionnelle pour la gauche, c'est qu'il n'y a pas besoin de grossir le trait. C'est qu'il y a un sujet qui, à mon avis, va traverser toute la campagne et qui va être la ligne de fracture majeure, finalement, entre tous les candidats de droite et de gauche. C'est quand même ce sujet des nouvelles protections. Parce que, concrètement, quand vous regardez tous les programmes dont on dispose déjà, et ce qui a été fait en partie par François Hollande, les Français, ils ont très bien compris que ça allait être de plus en plus facile demain de se faire virer. Par contre, ils n'ont pas encore tout à fait très bien compris, ou on leur a pas très bien expliqué comment on allait faire pour les aider à retrouver du travail, comment on allait faire pour les aider à se former, bref, à affronter ce choc absolument terrible qui vient, et qui est ce choc de la digitalisation de l'économie au sens large. Et donc, tout ce débat sur les nouvelles protections, c'est un débat absolument formidable et que les gens attendent. Et là, si la gauche n'a rien à proposer sur ce sujet des nouvelles protections, là, pour le coup, c'est quand même à désespérer. Il y a toujours eu cet arbitrage entre envie de liberté et besoin de protection. Et là, on est clairement, aujourd'hui, on voit bien que le besoin de protection l'emporte très largement sur l'envie de liberté. Vous voyez, le rapport aux frontières, qui sont un symbole de la protection, même si ça n'est qu'un symbole virtuel, parce que le vrai échelon de l'efficacité
au
de notre protection...
Au cœur du discours de Montebourg, au cœur des discours de Valls aussi.
Au niveau européen, voilà. Mais pour les Français, oui, c'est ça. C'est les. Et donc, si la gauche n'a pas de réponse à apporter à cet enjeu des nouvelles protections, notamment par rapport au discours de François Fillon qui peut paraître rétrograde sur le plan de la protection sociale, c'est quand même à désespérer de la gauche.
Alors un mot Olivier Roucan, parce que vous voulez prendre la parole
très rapidement pour ensuite, mais juste pour par exemple Vincent Peillon propose un service public de la retraite. On sait aujourd'hui que le coût pour une personne placée dépasse 2 000 euros, 2 500 euros, que les familles ne peuvent pas. Donc service public de la retraite,
un service public à la petite enfance, un service public des maisons de retraite.
Vous avez aussi, par rapport aux questions du travail, de la formation qui évolue très vite, la question personnel d'activité. Et dans le programme de Peillon, on voit que c'est noirci, c'est-à-dire que cette coquille vide de la loi travail, eh bien, elle est là complétée. Et on trouve à peu près les mêmes choses dans les propositions d'autres candidats de ce point de vue.
Véronique Jérôme, Jean-Daniel Lévy, qui parle le langage de la gauche pour dire quoi exactement? Tout ce dont a parlé Emmanuel Le Chypre, ses craintes sur le numérique par exemple, et puis bien d'autres choses, est-ce que c'est présent au cœur des candidats de gauche? De la primaire de gauche.
Oui, au cœur de la primaire, on va entendre beaucoup de choses. Il y a de beaux discours. Pour l'instant, les choses sont pas complètement figées. Il y a aussi des candidats qui sont en dehors de la primaire et qui attendent de voir qui va sortir. Je parle par exemple de Macron qui est un peu le free rider, l'opportuniste qui attend de voir qui va sortir pour adapter son programme un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Donc là, on a vraiment l'impression que l'on fait un programme pour gagner les élections et rien d'autre, au lieu de faire un programme pour gagner les élections afin d'appliquer son programme, afin de le mettre en œuvre. On a quand même, c'est pour ça qu'il y a autant de reniements. C'est que les programmes sont bâtis uniquement pour l'élection et après il est très facile de les oublier et on a eu des expériences. Et on a une autre difficulté ici. Moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est que la gauche a beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus crédible. Elle sort du pouvoir. Ils sont tous sortants plus ou moins... potentiellement sortant. Donc les résultats ne sont pas complètement là, ils sont un peu là. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron aura peut-être une possibilité de jouer sur le plan de la nouveauté, de l'innovation, d'essayer. Alors après, il nous propose...
Au milieu de tout ça, c'est quoi? Il incarne quoi à vos yeux aujourd'hui? Emmanuel Macron, il incarne quoi alors?
Il est aussi sortant par
François Fillon.
Il est sorti
quelque part.
Il est sorti plus tôt. Il a vraiment joué le free rider au sens il ne veut pas assumer les coûts du bilan. Il reste en dehors pour être sûr d'être présent dans le jeu. Parce que finalement, on va avoir un un chicken game. On va avoir un jeu de la poule mouillée entre ceux qui sont en dehors de la primaire et qui seront à l'élection et le gagnant de la primaire. Si c'est Manuel Valls, il va devoir finalement se s'entrechoquer avec Emmanuel Macron et on aura de toute façon un choc frontal parce qu'il n'en sortira rien et aucun ne voudra céder. Si c'est Arnaud Montebourg, ce sera avec avec Mélenchon. Et on aura là aussi, personne a priori ne semble vouloir céder. Donc on va avoir, si on fait un peu de la prévision, anticipation, appelons ça comme l'on veut, on va avoir, on avait regardé les élections scope il y a 6 mois, la projection de la présidentielle, c'était 38% pour la gauche totale. Et 38% qui se partagent sur les trois grands candidats, c'est finalement 13,5 chacun. Les sondages donnent à peu près 15.
Trois grands candidats, donc Macron, le gagnant de la primaire de la gauche et Mélenchon.
Et donc là, on voit bien qu'il y a véritablement une vraie difficulté. La chance de ces candidats, c'est que le FN diminue fortement sous effet d'une amélioration de l'économie.
Jean-Daniel Lévy, Harris Interactive, justement, comment affirmer allez, l'ancrage à gauche, c'est pour dire quoi exactement?
Redéfinir ce que peut être la social-démocratie à la hauteur des enjeux du 21e siècle.
Elle va pas très bien, la social-démocratie, en ce moment.
Elle va pas très bien. Deux, en fait, c'était quand même construit sur un État qui est un État protecteur, en force de redistribution et en force d'égalité. Et on voit que ça se heurte à des défis qui sont les défis de la mondialisation d'un côté et qui sont même les défis de la définition même de l'égalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à des Français, même à gauche, qui disent « oui, je suis en faveur de l'égalité ». Mais en même temps, dès qu'on entre dans le détail de l'égalité, on a quand même le sentiment que soi-même, on mérite un peu plus que son voisin, et que le système de solidarité se heurte au principe de l'assistanat. Donc on a des thématiques, et des thématiques extrêmement fortes au cours des années 80-90, et qui aujourd'hui font que définir ce qu'est la gauche au regard justement d'une forme de justice sociale pose de véritables enjeux. Mais là...
Alors on l'a défini comment, la gauche?
Là, on l'a défini comme étant en capacité à pouvoir garantir un avenir globalement à ceux qui sont un peu à la lisière du chemin, ou ceux qui sont potentiellement...
Être de gauche en 2017, c'est ça?
En tout cas, c'est cette attente-là. Ouais. Et donc, c'est une attente malgré tout, mais qui ne traverse pas que la France, c'est-à-dire en disant, on veut que le politique puisse avoir la maîtrise, on veut qu'il puisse y avoir des systèmes où ça n'est pas l'économie qui est nature à pouvoir régir complètement notre quotidien en tant que tel, et on a envie de faire en sorte qu'il puisse y avoir un peu plus d'égalité et un peu plus de justice sur notre territoire. Vous avez pris l'exemple d'Auchan, c'est vraiment, aux yeux des Français, une dimension qui est une dimension profondément injuste, notamment lorsqu'on est à gauche sur l'échiquier politique, et la thématique de l'égalité, en ayant le sentiment qu'on fait soi-même des efforts dans le cadre de l'entreprise, mais qu'au-dessus, on gagne plus, voire beaucoup plus, et donc une attente de régulation de la part de l'État.
Et aujourd'hui, à votre avis, Jean-Daniel Lévy, qui parle le plus le langage de la gauche? Est-ce que c'est l'un des candidats des primaires, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Payon, Valls? Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que c'est Nathalie Arthaud ou toute la bande de l'extrême gauche? Est-ce que ce sont les Verts? Est-ce que c'est Marine Le Pen aussi?
Marine Le Pen a réussi à préempter toute une thématique sociale. Ouais. Elle parle de la retraite à 60 ans, elle parle des 35 heures, elle parle des services publics, elle parle de l'égalité sur le territoire, elle parle même de la laïcité, qui sont les thèmes qui ont été portés haut et fort par la gauche, quitte à ce qu'elle les réinterprète, pour revenir juste sur la fin de votre question. Si on prend d'un point de vue sémantique, c'est aujourd'hui Benoît Hamon, c'est aujourd'hui Arnaud Montebourg, et c'est également aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça veut forcément dire qu'on va voter uniquement autour de ces thématiques-là? Si on prend l'exemple de 2011 et de la primaire citoyenne de 2011, ça n'avait pas fonctionné à l'époque. C'est-à-dire que celle qui parlait le plus à la gauche, avec les mots de la gauche, c'était Martine Aubry. Et pour autant, elle n'a pas gagné parce qu'elle avait une interrogation sur sa véritable volonté d'aller aux responsabilités et sur une partie de la sincérité de son propos. Donc on voit que c'est pas forcément un vote qui va être un vote vers celui qui parle le plus le langage en tant que tel de la gauche.
Donc pour finir, quoi de neuf à gauche? Le PS incarne vraiment la gauche ou pas, Thomas Porcher?
Au pouvoir, non. Là, on l'a vu ces dernières années. Là, au pouvoir, non. On l'a vu avec le tournant de la rigueur. Mais rappelons-le quand même. Je rajouterai juste une chose.
C'est que
un programme très à gauche comme la démondialisation de Montebourg a fait, je crois, 17%. Ce qui est quand même hallucinant. Alors que tout le monde pensait que ça allait faire 5-6%. Donc il y a quand même une branche de la gauche qui veut un programme réellement à gauche.
Olivier Roucan.
Non, juste dire que je pense qu'il ne faut pas négliger les enjeux de santé, de consommation, d'alimentation et de santé et d'écologie. Je pense que vous parliez d'innovation. Programmes, je pense que la gauche a tout intérêt à se saisir aussi de ses inquiétudes.
Véronique Jérôme, Emmanuel Le Chip, et on se dit au revoir, c'est fini.
Finalement, la gauche n'a pas le monopole de la justice sociale. Je pense que la place de l'État, elle se pose autant à gauche qu'à droite.
Emmanuel?
La vraie question, c'est est-ce qu'être de gauche, c'est utiliser des instruments de politique économique de gauche pour arriver à des résultats qui, au contraire, font du mal à ce qu'est le vrai peuple de gauche, ou bien est-ce que c'est avoir le courage d'avoir une vraie finalité? Vous savez, Pierre Bérégovoy, il disait, quand il pensait à une mesure de politique économique, il disait, mais à la fin des fins, à qui ça profite? Est-ce que ça profite vraiment aux petites gens? Et ça veut dire avoir le courage de prendre des mesures mesures qui peuvent paraître des mesures libérales, mais qui, au final, profitent. Bon. Aux gens modestes.
Merci. Oh, belle année, hein, 2017, justement, avec beaucoup de politique. On reviendra, on remontera ce type de débat dans les décodeurs de l'écho. Avec nous, Véronique Jérôme, politoéconomiste, Élections Scope, auteur de La victoire électorale ne se décrète pas. On avait Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive, Olivier Roucan, politologue, constitutionnaliste, Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique à BFM Business, et puis Thomas Porcher, professeur à la Paris School of Business, auteur de « Introduction inquiète à la macroéconomie ». C'est fini pour les décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.